tyrannosaures dans les populations humaines pour les réguler parce qu'elles sont trop nombreuses. Je ne sais pas si beaucoup de gens qui seraient pour à ce moment-là. Les tyrannosaures dans des pays où justement il y a surpopulation humaine, ce serait assez efficace. On vivrait sur le terrain, je ne sais pas si on serait pour la prédation. Non, oui, mais pourquoi pas répondre à des questions. Ça serait une prédation aussi.
Est-ce que je peux répondre aux sensations que
un humain face à des animaux vraiment sauvages? On a passé 5 semaines au Kenya, sous une tente, avec la fermeture qui ne fermait pas, il y avait des lions à 10 mètres. Est-ce qu'on a bien dormi? J'ai jamais si bien dormi de ma vie.
C'était la fatigue, vous avez bien dormi. Moi, j'aimerais pas vivre dans une ville où je sais qu'il y a des tyrannosaures qui peuvent sortir des bois à tout moment et m'échiqueter. Je serais pas très à l'aise quand même. Je préfère quand même voir quoi.
Moi, j'irais les prendre en photo.
Dans Jurassic Park, ceux qui sont déchiquetés par les tyrannosaures, ils sont pas heureux en fait. J'aime bien. Voilà. Et donc je pense que si ça, on l'accepte pas, alors qu'on accepte la réintroduction par exemple des prédateurs comme les loups, c'est clairement une spécialité. Puisque quand c'est l'humain qui est concerné, on n'est pas pour qu'il souffre, qu'il soit déchiqueté à tout moment, qu'il vive sous cette terreur en permanence. Quand c'est d'autres animaux, ça passe. C'est clairement une question de
soucis. Ben c'est vrai que quand on a la tigre au cul, on ne se demande pas de quel droit on court.
Absolument. On continue dans ce délire ou non, j'avais prévu quoi?
Mais j'ai pas prévu grand chose, mais parmi les.
Oui, on peut aller le brasser aussi, parce que on va pas faire tout le monde connerie.
Non, moi je pense pas non plus que ce soit une connerie. On a une réaction d'effroi par rapport à l'idée d'une gestion totale et totalitaire de la nature pour abolir tout ce qui est maladie, prédation, famine et tout ça, je pense. Mais. Moi je trouve que la question est pertinente de. Par exemple, on vit vachement avec une idéologie d'un côté il y a l'humanité, avec ses lois, ses droits, sa justice, tout ça. Puis de l'autre côté il y a les animaux, et c'est deux ordres incommensurables. Le côté des animaux, c'est la nature, ils font partie de la nature, c'est leurs histoires, c'est un peu le droit des nations, des peuples à se gouverner eux-mêmes, quoi. Mais aussi c'est une dictature sanglante, c'est quand même eux qui l'ont choisi. En fait, ils ne l'ont même pas choisi, hein. Pas plus que d'ailleurs les peuples quand c'est une dictature sanglante. Et c'est une sorte d'apartheid des espèces, en fait.
Ouais. Mais qu'on ait un prédateur ou pas, on est toujours spéciste. Hein. On veut du nom. Bah oui. À partir du moment où on juge la prédation et où on veut intervenir.
Non, pas nécessairement. Ben non, parce que tu es spéciste si tu juges en fonction des seuls intérêts des membres de ton espèce. Mais si tu essayes de prendre en compte les intérêts des individus concernés, sur un mode égalitaire par exemple, c'est pas du spécisme. C'est un peu le même problème que.
Moi je peux citer un exemple de ressenti, par exemple, c'est vrai que c'était à deux époques vraiment différentes, et à une époque où j'étais pas assez sensibilisé au monde animal, mais quand dans mon enfance je suis allé peut-être deux fois dans ma vie dans des zoos, j'ai toujours senti des animaux malheureux au niveau sensation bête, la sensation primaire, tu sais. J'ai toujours senti des animaux malheureux. Et quand on est allé au Kenya, ça remonte déjà à 92, j'avais une idée fausse de l'Afrique. À travers les films qu'on nous montre, c'est toujours l'horreur, les blancs, les gros, machin, tout. Donc j'étais allé là-bas en me disant, les gazelles doivent vivre dans la terreur. Non. J'ai remarqué certains rituels entre prédateurs et proies, et je suis désolé, mais je n'ai senti que des gazelles vraiment heureuses. On a observé un jour une gazelle avec son petit qui venait d'être. Il venait d'être. C'était vraiment. Je ne dis pas qu'il venait. Attends, mais écoute l'histoire avant de répondre.
qui venait de naître. Les lions étaient couchés à 15 mètres. Donc le lion aurait très bien pu se lever, attaquer, il n'y avait aucun problème. Mais ce que j'ai pu observer, ce qu'ont observé tous les naturalistes, ils ont intègre, sérieux, il y a une sorte de rituel. Quand le lion décide d'attaquer la proie, curieusement, il se lève et il commence par aller se cacher. Alors tes gazelles sont là, 10-15 mètres, je vous jure que c'est vrai. Le lion, il se barre à 100 mètres, il se cache. Et là, le troupeau est tout en dévêt, il se passe la scène de chasse qu'on n'a pas vue. Pourtant, on est resté 5 semaines. Hein. On n'a pas assisté à une seule chasse. Et on l'a vu, vous l'avez vu comme moi dans les films, dès qu'une des gazelles est chopée, le reste du troupeau s'arrête. Il y a une sorte d'autre rituel du reste du troupeau qui regarde celui qui est en train de mourir. Une heure après, ça semble oublié. Ça semble oublié. Et nous, on a remarqué que, on a vu d'après les traces qu'il y avait eu des attaques dans la nuit, on a eu remarqué que le reste du troupeau revenait voir l'emplacement qu'on avait été du déjeuner. Je vous le livre comme ça en gros, il n'y a aucun jugement, voilà ce que j'ai observé. Donc, pour en revenir, d'une manière générale, moi, je n'ai vu que des gazelles heureuses. Et pour ma part personnelle, c'est la première fois que j'ai été plongé dans un monde vraiment triste sur le plan risque pour moi, pour nous, parce que pas tellement avec les lions, bien qu'il ne faut pas descendre de voiture sinon il est beau, mais avec tout ce qui est scorpion, serpent, cobra cracheur qui est très commun et qui adore venir rentrer dans les temples, et en plus vous dit attention, je ne sais pas. Et j'avoue que même moi, même Christine, on ne s'est jamais senti aussi heureux que dans ce système qui est pourtant. Attends. Non. Oula, je suis pas, j'ai pas du tout. Hein?
Vous avez
un... Non. Mon seul fusil, c'est l'appareil photo. Non, j'avais rien. J'avais ma petite expérience du monde animal. Donc je savais qu'il fallait faire un feu. Un des soirs, j'ai eu une rencontre presque du troisième type avec une viole, donc à moins de 5 mètres. J'avoue que ça fait tout drôle de se sentir comme une proie. Bon, elle avait d'autres soucis en tête, puisqu'elle s'est envoyée en l'air avec un lion toute la nuit. Mais, non, je sais pas, d'une manière générale, moi j'ai senti des animaux heureux. Malgré cette prédation qui... Même moi, elle me gêne quelque part, c'est vrai. Mais encore une fois, avec la nature, nature, je sais que c'est un mot qui fout bien, mais avec ce fatras, cette sorte d'équilibre, on est face à quelque chose d'extrêmement complexe. Et on sait que tout ça est imbriqué de manière qu'on appelle prédation, c'est un mot qui est inventé par l'homme. Et donc, c'est pour ça que je posais la question, à quel niveau on arrête la prédation, puisque tout est prédation. Alors, est-ce qu'on va tuer tous les animaux? Est-ce qu'on va... Ou alors, ce qu'on disait tout à l'heure avec Daniel, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Mais on n'en a aucune. Encore une fois, on est face à quelque chose d'extrêmement complexe.
Je m'appelle David.
Oui. La question de la prédation, elle a été soulevée. Je crois qu'il n'y a personne d'entre nous qui imagine, à l'heure actuelle, pouvoir mettre au point des solutions. Ce ne sont pas des catastrophes. Peut-être sur des points précis, c'est vrai qu'on parle aussi de la prédation d'une façon générale, et qu'on ne parle pas. Alors, c'est une myriade de cas particuliers, la prédation. C'est les prédations, et quelque part, chaque cas est particulier. Mais nous, la question qu'on pose, c'est d'un point de vue un peu général. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, là, je ne parle pas pour toi, mais de façon générale, quand on discute avec les gens, c'est clair que, comme ils ont l'idée que l'animal fait partie d'un tout, et qu'il est fonctionnel dans ce tout, qu'il est là pour ceci, pour cela, pour servir de proie, pour manger des végétaux, pour raquer la vase, je ne sais pas quoi, qu'ils ne voient plus l'animal en tant qu'être sensible, ils ne le voient plus que sous cet angle de fonctionnalité, et nous, on pense que c'est quelque chose qui fait énormément obstacle à la prise en compte des animaux. Cette vision idéologique, en fait, qui efface la subjectivité de l'animal, pour ne plus le voir que comme une sorte d'objet qui est parti d'un tout. Et poser la question de la prédation, ça permet de reposer cet animal en tant qu'existant individuellement, avec ses intérêts propres qui sont ressentis, sa peur panique ou pas, comme existant en fait, et de faire prendre conscience de ça. Et il me semble que quand on a pris conscience de ça, il y a un énorme pas qui est gagné dans notre changement de rapport par rapport aux animaux, dans l'individualisation qu'on fait de chaque animal.
D'ailleurs, je ne me considère pas comme un naturaliste. Je suis un petit peu à part, bien que j'ai participé à des études naturalistes. Ils m'emmerdent, les naturalistes, justement, parce qu'ils s'arrêtent au... Ils s'arrêtent à l'admiration, à la... Mais pour moi, ils sont boiteux, ils n'utilisent pas le côté sensibilité, quoi. Alors, c'est intéressant de faire des travaux, d'étudier, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Mais je trouve qu'il ne faut pas être boiteux, donc il faut rajouter notre sensibilité, notre cœur, notre émotion. Et d'ailleurs, c'est vrai que les trois quarts des naturalistes ont le même comportement que les chasseurs. Moi, j'ai assisté à des trucs redoutables. Alors que j'étais à la base de la formation d'un petit groupe ornitho à Nice, où on observait à l'embouchure du Var, je peux vous dire que, comme j'en profitais pour montrer aux gens, puisque le public venait là, c'est juste un petit aparté. Le public venait là et croyait qu'on regardait des avions. Alors moi j'en profitais pour faire de l'information, dire ben non, regardez, là il y a des boules d'eau, là, etc. Ça a créé un brise-bille épouvantable à l'intérieur du groupe. On m'a accusé du doigt, pas dire ça, pas dire ça. Et petit à petit, au cours des semaines et de courts mois, quand j'arrivais, qu'il y avait un oiseau rare, que tous les gars avaient leur télescope braqué dessus, quand j'arrivais moi, hop, ils tournaient le bras, ils regardaient. Ils ne voulaient pas me montrer l'oiseau rare qu'ils avaient mis. Et quand j'ai photographié la fameuse poule, la cousine de poule d'eau, la marouette poussin, ça a créé une jalousie pour tout ça. Ils ont réussi à me foutre dehors uniquement pour des problèmes de jalousie. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc naturaliste dans toute son ampleur. Ils sont aussi cons que les gros cons de chasseurs. C'est leur territoire, c'est leur truc. C'est quant aux études pour arriver à protéger un endroit, on arrive toujours à des conclusions à la française, des grosses magouilles. La dernière en date où j'avais participé à la protection de la plaine des morts, qui est au Luc, dans la banlieue de Toulon, résultat des courses, à l'arrivée, vous n'avez plus le droit de circuler là, vous n'avez plus le droit de prendre des photos ni rien, mais si vous êtes chasseur, vous avez le droit d'y rentrer. Et ça, c'est racheté avec le pognon du conservatoire du littoral, c'est-à-dire votre argent. Votre argent sert à créer ce genre de réserve. Donc vous n'avez plus le droit d'aller, sauf si vous êtes chasseur. Et en général, côté océan, c'est géré par la FPO, je redis du mal de la FPO. Et côté Méditerranée, c'est géré par les GROC ou par le CEPS qui est parmi nous.
Mais pour revenir aux associations de protection de la nature, moi je suis convaincu, oui c'est ça, aux associations écolo, je suis convaincu qu'un énorme problème, c'est qu'ils ont toujours en tête cette idée qu'ils sont face à des systèmes, des équilibres, des totalités, des ordres, et du coup, ça leur fait un écran, mais un écran de type idéologique, mais comme pour les croyants sociaux, enfin je veux dire ceux qui luttent pour un nouvel ordre social,
ouais.
Et qui vont ne plus voir du tout les individus, et la concrète réalité, en fait, ils se perdent dans des idées, des abstractions qui absolutisent, qui vénèrent, qui sacralisent, et ils perdent toute... réalité, toute relation à la réalité toute bête de, bon, bah, là, des individus sensibles. Et, c'est, à mon époque, là, je parle des assos écolos parce que c'était le thème, mais je pense que c'est un truc qu'on retrouve globalement par rapport aux animaux de façon générale dans la société. Cette idée, c'est quelque chose de totalitaire, on ne voit plus l'animal que comme partie. son rouage, élément, et toute subjectivité disparaît.
Et de préférence qui n'est pas intelligent, ça nous arrange aussi.
Ouais. Mais, la notion d'instinct, par exemple, c'est une notion qui n'a aucune vertu explicative. C'est à peu près justement la vertu dormitive de Molière, hein, quand on lui demande, c'est plus un médecin, si on demande pourquoi telle potion fait dormir, il dit c'est grâce à sa vertu dormitive. Et la notion d'instinct, en fait, elle n'a aucun pouvoir explicatif. C'est une notion qui ne présente aucun intérêt d'un point de vue...
Ça ne veut rien dire.
Oui, mais par contre, elle permet d'évacuer la subjectivité de l'animal. Le fait qu'il ressent des désirs, c'est comme s'il était programmé et que voilà, il y a l'instinct qui fait qu'il va remplir sa fonction, faire ce qu'on lui demande. Alors qu'il n'y a aucune raison que si quelqu'un se place de l'extérieur de l'espèce humaine, dans ce cas-là, tu ne parles pas en termes d'instinct, mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. On a peut-être des tendances, des pulsions et tout ça, mais on a une subjectivité, on ressent des désirs, on ressent des émotions, des sensations.
Hein? C'est vrai qu'on a certaines fonctions automatiques, qu'on n'a pas besoin d'ordonner, la digestion, respirer, etc.
Oui, là, on ne parle pas d'instinct.
Instinct, ouais, ça ne veut rien dire pour moi. Non, instinct, c'est un truc, c'est quoi l'instinct?
On dit pas que l'oiseau il digère, avec la digestion que fait l'oiseau des grains qu'il a bouffés, qu'il le fait par instinct. On dit, bon, ben, les sucs digestifs, enfin, comme chez nous, quoi. C'est quand il s'agit de choses que fait l'oiseau qui correspondent à un psychisme, qu'on évacue ce psychisme par le mot instinct. Si on décrivait chez un humain, on dirait qu'il le fait parce qu'il veut faire ceci ou cela. Chez l'oiseau, on dit c'est par instinct. Quoi. C'est-à-dire des actes volontaires, on les disqualifie en les considérant comme...
Alors qu'il n'y a pas plus réfléchi qu'un oiseau, vraiment pas d'instinct.
Mais disons qu'il y a quand même...
Il est toujours en éveil.
Il y a quand même un peu un mystère...
Ils sont un peu tous facilement... Oui, bon, par exemple, on fait le rani.
Oui, il y a un mystère pour expliquer ça, quoi. C'est pourquoi est-ce que l'oiseau, il a envie, enfin, à quoi ça correspond, cette envie qu'a l'oiseau de faire le nid comme ça. Ou peut-être c'est même pas une envie de le faire comme ça, mais il se trouve que le résultat est comme ça. Alors bon, il y a des choses à expliquer. Enfin, il y a des choses, y compris chez les humains, qui s'expliquent sans avoir nécessairement une intention au départ. Je veux dire, le truc classique, c'est les cours de la bourse, qui sont des phénomènes collectifs que personne n'a désiré. Mais bon, pour les oiseaux, bon, ben, on ne cherche pas de détails des explications, on dit c'est l'instinct.
Ça commence chez les oiseaux, mais on est mal vu.
Oui, mais je crois que la notion d'instinct est de plus en plus disqualifiée, la notion d'instinct, chez les éthologistes un peu d'avant-garde, enfin modernes. Mais dans le grand public, c'est clair que c'est l'instinct.
C'est toujours bon à manger un oiseau dans l'esprit du grand public.
Ah oui, voilà.
Éventuellement, il est joli quand il a de belles couleurs, mais bon, voilà.
Quand il est bien doré, les cuisses et tout ça, quoi.
Ouais.
Il y a
un exemple qui me revient, mais c'est un exemple dont j'avais parlé dans un texte dans les cahiers anti-spécistes, mais c'était, il me semble que la prise en compte des intérêts des individus animaux, aussi, ça pourrait être une force pour les mouvements écologistes. L'exemple en question, je me rappelle, c'est en Australie, en fait. Il y avait... il y a eu des tests d'armes virologiques contre les lapins qui étaient effectués dans une île. Et en fait, le virus s'est échappé et a détruit, en l'espace de quelques semaines, je crois, 80% de la population de lapins en Australie. Bon, il se trouve que plein de gens étaient contre ces lapins parce qu'ils venaient d'ailleurs, et voilà. Mais... les réactions, y compris d'ailleurs dans les milieux de défense animale, d'indignation, ont été uniquement en termes d'espèces, ça a éradiqué une espèce, et très souvent, en plus, comme ils n'aimaient pas l'espèce lapin, ça a été en termes de ce virus, il risque de se transmettre à d'autres espèces. Et même, moi je sais même chez des gens qui se sont impliqués dans l'élevage animale, les échos que j'ai eus en tout cas de ce qui se disait en Australie, il n'y avait rien qui faisait référence à la monstruosité que ça a été en termes de choses vécues par les millions et les millions d'individus qui ont agonisé. C'était un truc horrible, hein, c'était des agonisons et tout ça. Et alors qu'il me semble que si l'écologie mettait en avant ce que signifie une pollution de rivière pour les poissons, ce que signifie des taux de l'eutrophisation du nid, l'acidification des lacs, la suranture des lucans, je ne sais pas quoi, mais etc. Quoi. Il y aurait un abstrait. Peut-être que ça cesserait d'être aussi abstrait que ça l'est souvent, ça nous semble lointain, et peut-être que ça prendrait une dimension beaucoup plus importante en fait. Qu'on se dirait, mais c'est des individus qui existent réellement, qui nous sont contemporains et qui vivent ça du fait de nos activités. Et peut-être aussi, ça, c'est quelque chose qui pourrait doper les.
Je sais pas si on arrivera à réveiller les naturalistes, ils sont graves, hein, comme ils existaient, je crois. Ils épinglent des papillons.
Oui,
ça n'en fait ni chaud ni froid.
Mais les gens qui se battent contre.
Ben oui, mais dans les assos, tu trouves quoi? Tu trouves un mélange de naturalistes et de gens. Soit ils sont bien sensibles, mais incompétents.
Peut-être pas dans les avions. Moi, je sais pas. Je ne sais pas dans quel lieu. Peut-être pas ce type de discours qui arrive, effectivement. Bon, alors. Pas passer pour des extrémistes ou des choses comme ça, et du coup devenir par rapport au grand public sans qualité, j'arrive pas à trouver le mot.
Je pense qu'il y a un effet qui est que. Quand un responsable d'association écologiste va. Dans un ministère ou même à la radio, et s'il s'amusait à dire je viens protester parce que ça fait souffrir les animaux, c'est un discours qui est beaucoup plus difficile à tenir. Enfin, d'aller dire la chasse, je suis contre parce que ça fait souffrir les lapins, c'est beaucoup plus difficile à dire. Enfin, on a l'impression que c'est presque un tabou, quoi. Que le ministère dira tout de suite vous êtes ridicule, vous nous parlez de lapins, moi je suis élu par des humains et je suis pour les humains.
Je suis d'accord, par contre, c'est effectivement de ne pas prendre qu'un des soins de vie. Dans les tracts dont tu parlais tout à l'heure sur les déchets nucléaires, on pourrait effectivement mettre le point de vue pour l'intérêt humain, mais aussi pour les dégâts que ça cause sur les animaux.
Ou voir les mettre en parler de façon unifiée, enfin, tout comme on peut parler. Oui, mais sans forcément faire d'un côté les humains, de l'autre côté les lapins, mais de la même façon qu'on peut dire les déchets nucléaires, ça fait du mal aux paysans, et puis ça fait du mal aussi à telle autre population, et puis telle autre population, et puis ça fait du mal aux lapins, et puis ça fait du mal, enfin, sans forcément faire deux catégories différentes de victimes, quoi. Enfin, pour moi, ça serait l'idéal, sans en faire une catégorie à part. Je voulais dire quelque chose par rapport à un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on discute juste là, mais qui revient à des trucs que tu as dit toi tout à l'heure, et une réaction qui est extrêmement courante par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à la prédation, c'est l'expression de quel droit. De quel droit je ferai ça, de quel droit vous feriez ça. Que moi, c'est quelque chose qui me laisse toujours perplexe. Moi, je ne sais pas très bien comment y répondre parce que. Enfin, à part dire simplement que je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un droit particulier pour faire quelque chose à partir du moment où j'ai le sentiment que ce que je vais faire, c'est globalement du bien, ou que c'est juste éthiquement par rapport à... Je veux dire, quand on dit de quel droit, par exemple, c'est... j'aimerais bien aller plus facilement au village faire mes courses. Tiens, il y a la moto là qui traîne, qui n'est pas à moi, et que je la prends. Là, je suis en train de... On peut me dire de quel droit tu prends la moto de quelqu'un que tu connais pas, et que... Ouais. Là, je suis en train de violer les droits de quelqu'un. Donc, je peux me dire, j'ai pas le droit de le faire. Mais par contre, par rapport aux animaux, je peux... Si c'est raisonner en ces termes-là, je peux me dire autant de quel droit je reste passif et permet à cet animal de tuer cet autre, autant que je peux me dire de quel droit j'interviens. Enfin, je veux dire, à ce compte-là, je veux dire, de quel droit, quand je vois quelqu'un en train d'en tabasser un autre, est-ce que j'interviens ? Voilà, en face de moi, j'ai quelque chose qui est la loi du plus fort.
Qui est validée dans la nature.
Oui. Enfin, qu'est-ce que... Si on dit de quel droit, j'ai l'impression que, implicitement, ça signifie que je suis en train de violer quelque chose, que je suis en train de violer le droit, je suis en train de violer l'état des choses. tu as des choses qui existent depuis des milliards d'années, où...
Ben oui, d'une certaine façon, oui, mais je sais pas.
Ben oui, mais un état des choses en soi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être violé, enfin, ou qui ressent quelque chose? A priori, non.
Ça me dérange moins que de savoir qu'il y a quand même au moins 50 000 serpents en France qui n'ont rien à faire dans les apparts et où chaque possesseur de ces serpents ont des élevages dessous.
Oui, tout à fait.
Mais ça, c'est toléré.
Non, mais ça empêche pas que, par exemple, que l'exemple de la chouette en soi, indépendamment de. D'autres exemples étaient un bon exemple de dilemme éthique.
Ouais, mais si on applique ta loi, t'as le droit d'avoir un serpent, t'as le droit de faire des dommages dessus.
Ah oui, c'est sûr.
Mais t'as pas le droit de sauver une chouette. Hein. C'est interdit par la loi.
Sauver.
Oui, c'est interdit.
De sauver une chouette.
Oui, c'est interdit. Sauf si il faut faire une déclaration, il faut aller dans un centre
sanitaire.
Et toi, en tant qu'individu, lambda, tu n'as pas le droit de sauver une chouette.
Regarde, tu t'en fous, parce qu'il y en a qui. De toute façon, la justice, quand tu as montré ton truc, ils disent toujours de toute façon, la loi interdit, mais ce n'est que la loi, et bien dans ce cas-là, tu sauves une chouette, tu t'en fous.
Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais c'est pour bien préciser que la loi est débile.
C'est ça, genre ça par contre, chez Foc.
Bah, en même temps, c'est peut-être pour éviter qu'il y ait un trafic.
Oui, c'est ça.
Bah, c'est un animal sauvage, tous les animaux.
De toute façon, le trafic, il existe toujours. Il existe en France. Et la France est un des plus gros pays trafiquants.
On ne peut pas dire que c'est un animal sauvage.
C'est fou, quoi. Ça m'est arrivé aussi, je l'avoue, quoi. Hier, ce qui était au diaporama, on a vu une photo où il y a un jeune guépier qui est chopé par une couleur. Bon, ben, elle avait vraiment l'intention de retourner dans le trou pour rechercher les autres, parce qu'il y a toujours 3-4 petits. Bon, j'avoue que j'ai chopé la couleur, j'ai été la mettre plus loin. Je l'ai empêché de continuer à manger les autres petits. Et elle m'a relâché la proie qu'elle avait chopée sur la photo, et l'endroit où je l'ai relâché, je lui ai mis la proie, elle n'en a pas voulu comme ça, et l'oiseau était toujours là. De peur, bon, elle est partie. Et la prochaine fois que tu vois un serpent dans l'eau, c'est pas une vipère.
Ah, c'est une couleuvre.
Couleuvre figurine, porte bien son nom.
D'accord.
Et sur la tête, la vipère, elle ne va pas dans l'eau, surtout pas dans l'eau. La seule vipère qui va un peu dans l'eau, c'est la Pléiade, qui est dans le tiers nord de la France, mais dans les coins marécageux.
Du coup, ça explique pourquoi les poissons continuent à gigoter.
Pourquoi?
Parce que la vipère, elle a un poisson très gênant.
Ouais.
Et la couleur, elle n'a pas de poison du tout.
Non.
Si, il y en a qui ont un nom. Plus à l'arrière, dans la mâchoire, mais là, il y en a
un. Bon, en fait, tous les serpents sont venimeux, tous. Et ils ont deux manières d'avoir du venin, soit par des crochets, comme les vipères, soit par des glandes qui coulent le long des dents. Et d'une manière générale, tous les venins de couleuvre sont inoffensifs pour l'homme et pour les grosses proies. Quoi. Même un poisson, son venin n'est pas assez puissant pour le tuer rapidement, disons. Mais le venin a aussi une fonction pour faciliter la digestion. Il intervient comme sucre-digestif. En fait, tous les serpents sont venimeux. Donc, si vous faites mort par une couleuvre, vous ne mourrez pas. Il est plus prudent de désinfecter parce que, comme elle mange des souris, bon, ça peut s'infecter. Le venin qu'elle a en lui-même, on peut vous en injecter 3 litres. Maintenant, c'est sûr que de manière ponctuelle, on peut se donner le droit d'agir. Pourquoi pas? Mais la solution globale, elle est vachement complexe. Oh, personne n'a la solution. Encore, à chaque seconde, là, il y a des milliards de prédations, il y a de la souffrance. Ah oui. On ne peut que constater là. Ouais. C'est la lutte pour la vie, en fait. On parle d'équilibre, c'est vrai que c'est pas un mot. C'est une lutte constante des espèces entre elles. Il faut vivre. Il y a la volonté de chaque animal de vivre. Quoi. C'est pour ça que les animaux en bas de l'échelle de la prédation, ils compensent par un tas de prolifération. Quand c'est le cas des souris, 4 fois par an minimum. Les grenouilles, c'était les grenouilles. Ça pond 5000 œufs chez les grenouilles. Par contre, tu vois, supposons qu'on enlève les prédateurs des grenouilles, un an après, tu te retrouves avec, allez, on va dire moitié-moitié, 2500 grenouilles qui vont pondre chacune 5000 œufs. Fais le calcul au tableau, tu vas te retrouver avec des milliards de grenouilles. C'est d'ailleurs le problème de certains produits qu'on utilise en agriculture. Carrément, on fait des conneries monumentales, c'est-à-dire pour détruire les rats, on va balancer certains produits qui effectivement vont tuer les rats, mais pas tous. Et
malheureusement ou heureusement pour les rats, je ne sais pas si on doit dire heureusement. Mais les rats s'habituent très vite. En 2, 3, 4, 5 générations, c'est-à-dire 2 ans, le produit ne leur fait plus rien. Par contre, tous les prédateurs de la chaîne alimentaire vont mourir. Et eux, avant que la niche écologique d'un hibou grand-duc, mettons qu'il a disparu, soit remplacée par un autre hibou grand-duc, attends, lui, il n'a qu'un petit parent, en plus le taux de mortalité est élevé, il va falloir 10 ans avant qu'il y ait un grand-duc qui s'installe. Donc voilà où je dis, ça devient complexe, là, ce truc. Alors on sait qu'il ne faut plus faire ce genre de conneries, balancer des produits à la con.
Le but des agriculteurs, c'était de supprimer la prédation, c'est ça ?
Mais c'était de supprimer les rats parce que ça leur bouffe les récoltes, quoi.
Mais le résultat, c'est qu'ils suppriment les prédateurs, donc.
Oui, et ils favorisent les rats.
Ben oui, c'est sympa. Ouais.
Alors, résultat des courses, les 2 premières années, ils ont bien récolté 100% de récolte.
En plus, ils leur donnent du blé au lieu que le blé, ils servent à les
faire. Et puis après, ils sont catastrophés parce que là, il y a eu des années. D'ailleurs, tu entends parler chez les agriculteurs des années à rats. Qu'à remonter quelques années en arrière, tu lui dis, mais t'as mis quel produit là ? À chaque fois qu'on intervient dans cette chaîne alimentaire, on crée des déséquilibres énormes. Et ça nous tombe dessus par le biais de la récolte. Ouais, t'as bien récolté pendant 2 ans, puis les 3 ans suivants, ouais, tu fais ceinture. Et en plus, t'as payé du produit, et qui en plus a pollué la nappe phréatique, etc. Ah, ben, tu vois, donc on est dans quelque chose d'absolument complexe. Il faut arrêter ce genre.
C'est pas l'équilibre naturel qu'on a généré là, c'est encore un intérêt humain.
Oui, justement.
Oui,
mais c'est tellement bête que ça va contre l'intérêt, ça va même contre l'intérêt humain et contre l'intérêt des animaux. Quoi. C'est doublement débile d'utiliser des produits chimiques. Même si on voit sous l'aspect intérêt humain ou intérêt animal, souvent ça va le faire. Quoi. Chaque fois qu'on veut intervenir dans la prédation, ça marche pas. Sauf. C'est ce que sont en train de trouver les chasseurs, sauf par la chasse. C'est-à-dire que eux, ils ont un discours bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans de ça, quand il n'y avait pas de loup, ils disaient ouais, mais on ne peut pas arrêter la chasse parce qu'il n'y a plus de prédateurs, donc il faut bien qu'on les remplace. Maintenant qu'il y a le prédateur, ils disent oh, il ne faut pas de loup parce qu'ils nous bouffent.
C'est pas
les chasseurs
qui disent ça, ce sont tous les éleveurs de moutons.
Enfin, oui, mais c'est les mêmes. Hein.
Non,
oui. Tu ne connais pas le nouveau bâton de berger, c'est... Maintenant, les bergers flinquent et tout. Ouais. C'est les mêmes, hein, les agriculteurs, bergers, chasseurs, c'est la même race, la même espèce. Donc, si on raisonne, si on regarde le truc que sous un angle quantitatif, si tu veux, ça marche, ton truc. Il y a des populations, certes, donc, qui se développent, par exemple. Tu enlèves les prédateurs, tu mets les chasseurs. En plus... Et ils le prouvent scientifiquement, ce qui est juste toujours sur un plan, je raisonne sur un plan bêtement quantitatif. Hein. Donc on connaît les taux de reproduction des cerfs, etc. Donc on leur donne des plans de tir, vous avez dû entendre parler ce mot. Donc et ben, les populations restent stables. Et ils prélèvent leur sacro-saint gibier. Alors, à la limite, moi je préfère les loups que les crocs. Hein. Pardon, les chasseurs. Croque, c'est diminutif de gros con. Comme ça que j'affiche jamais les appeler. Parce qu'eux, ils vont tuer pour s'amuser.
Mais
pour moi, c'est 25.
Hein, tu vois. Parce qu'il y a souvent l'idée qu'il est prédateur, tu vas pas pour ce que mais c'est pas toujours si vrai.
Non, je crois pas.
Il y a souvent l'idée qu'il est prédateur.
Tu pars pour s'amuser,
ouais.
Mais en fait.
C'est souvent ce que disait
le chasseur. C'est parce qu'il est domestiqué, mais dans la nature, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, les animaux se trouvent à leur portée. Quoi. Ils font aussi des choses.
C'est avec terres. Toi que j'en parlais hier, non, des fameux orques et polars. Où dans le même pays, il y a deux cas vraiment étranges de comportement des orques. D'un côté, il y aurait une famille d'orques
qui sembleraient, qui soient devenus des criminels, en quelque sorte. Elles attendent les naissances des baleines, et quand les baleines remontent, les baleines franches remontent du l'Amérique du sud-ouest, et elles remontent vers la Colombie-Britannique, donc. Et là, il y a un groupe d'orques et polars qui, depuis 2-3 ans, attaquent systématiquement les jeunes baleineaux, et il y a eu un film assez horrible tourné là-dessus, où elles emmerdent le petit jusqu'à ce qu'il se noie. Et elles le croquent vaguement, 2-3 bouts, et on voit le petit qui plonge, donc elles ne le mangent même pas. C'est vraiment étrange comme comportement, surtout que c'est un animal dans la hiérarchie de l'intelligence, mais quand même pas négligeable. Et à peut-être 200 km d'intervalle, la même espèce, une orque polaire, qui a été, on ne sait pas trop, soit rejetée, soit devenue orpheline de son groupe, qui s'est retrouvée toute seule, et qui, bon, ben, se nourrit poison dans un golfe entre l'île de l'Antiverde et l'Antiverde, dans l'un des méandres. D'ailleurs, on a regretté de ne pas être au courant, parce qu'on y était l'année dernière, et on a su qu'il y a 3 mois, on a bien aimé l'avoir. Et donc, cette orque épaulard a un comportement tout à fait inverse. À tel point que, comme dans ce golfe, il n'y a pas d'autre orque épaulard, elle a même fini par copiner et elle n'a jamais attaqué les phoques. Elle joue avec les phoques. Alors que c'est une proie habituelle des autres. Et donc elle se nourrit que de poissons et elle a fini par copiner avec les Indiens qui pêchent dans ce coin. T'as peut-être dû le voir à la télé. Hein.
Non, mais t'en as parlé hier.
Voilà, j'en ai parlé hier. Et il y en a un qui dit ouais, d'abord qu'on caresse la langue, alors tu vois l'or qui sort, là, c'est pour tout ça, et toi tu prends un peu là-dedans et t'es là comme ça. Elle se fait caresser la langue. Alors ils m'ont parlé à la télé parce que le gouvernement canadien voudrait la capturer pour la mettre au large dans le parc des Tofinos parce qu'elle a fait peur à beaucoup de promeneurs. Quoi. Les gens ils font du canoë là-bas, les blaireaux moyens, les blaireaux c'est les touristes, les blaireaux moyens qui font du canoë. Et elle est allée jusqu'à en attraper un dans son canoë et elle a posé délicatement sur un rocher, le mec il avait peur de sa vie.
J'aimerais bien que Enos lise un passage, elle me parle d'un passage d'un livre, là, d'une femme qui est donc spécialiste des reptiles et qui voyage dans le monde entier, souvent toute seule.
Oui, Nicole Liotta, je connais.
Pour prendre des photos de reptiles et pour aussi, je sais pas, qu'elle les soigne quand elle peut. Enfin,
oui.
Et en tout cas, elle m'a parlé d'un passage où cette femme a vu un prédateur, un aigle prédateur, et donc une espèce pointue, quelque chose blanc, un truc comme ça.
La harpie, probablement.
Je sais pas. Qui tenait l'oiseau, enfin, je sais pas comment, et elle a cru que c'était une proie, et en fait, qui lâchait le et qui s'est aperçu qu'elle lui apprenait à voler. Et c'est.
On a parlé tout à l'heure, j'ai oublié le nom de l'oiseau. Ça y est, d'habitude, cet oiseau-là, c'est la proie de l'aigle.
Ouais.
Et que en fait, il est là à voler. Je sais plus ce que c'était comme oiseau.
Ouais. C'est le guépard ou une lionne, je pense, c'est le guépard. Non, la lionne qui a été jusqu'à adopter au moins 5 ou 6 ans. À chaque fois, il y a le mâle qui a fait le lion. Elle en a adopté un. Donc les comportements, non, le devenu prédateur a des fois des comportements de guerre. C'est vrai, c'est quand même vrai que d'une manière générale, le prédateur, il ne s'amuse pas trop, quoi. On va dire dans 90% des cas, bien qu'on n'ait aucune donnée précise. Mais c'est vrai qu'il y a des comportements des fois vachement. Des lionnes qui laissent les genoux vivants repartir 5, 7, 8, 10 fois pour montrer à ces petits comment capturer. Ça dure, hein, ça dure. Ça va faire peur. Oui, mais c'est. Ce n'est qu'une observation naturaliste, c'est ça. Pourquoi elle l'appelait ? On le traduit par « elle veut montrer à ses petits », mais est-ce que c'est sûr, ça ? On n'en sait pas. C'est une interprétation brute, quoi. connaît pas tellement le réseau Fandalion, à part un chauffeur de minibus en Kenya qui m'avait dit, dans l'esprit d'un lion, tout ce qui descend des minibus, c'est friandise. Je crois qu'on ne connaît pas trop là, ce qui se passe dans la tête d'un lion. Moi, j'ai essayé de parce qu'on en a eu très près. Hein. On a même eu un couple d'emmerdeurs qui nous a suivis pendant 2 heures. Et à chaque fois, ils se collaient contre la voiture parce que c'était le seul coin à l'ombre. Ça fait tout drôle d'avoir un couple de lions. Alors, je me suis mis quand même à essayer de les observer, voir un peu. Fermer la vitre, hein, parce qu'il ne faut pas laisser traîner un bras quand même, on ne sait jamais. Je suis dans le lion. Ça, un regard quand même. Un petit peu comme les reptiles, ça. Ouais, c'est pas sympa, quoi, comme on regarde. On a vraiment l'impression d'être un sandwich, quoi, enfermé dans une maison. Les lions ont peut-être un regard un peu plus sympa. Ils sont pas de la pièce. Je crois qu'à la fois, il faut se servir des travaux des naturalistes, ne pas les rejeter à 100%, mais je crois qu'il faut y rajouter le cœur, la sensibilité. Et puis je crois que l'éthologie moderne est en train de nous apporter des éléments intéressants. Il y en aura de plus en plus. Voilà. Oui, mais c'est très récent, si tu veux. Parce que l'étude du comportement, par des gens, disons, sérieux et intègres, ça a commencé par des fossés.